Тарасу и Паскаль Сивый.
Бульвар 102.1. 14 7 1 s'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous avez de l'information pour nous, vous avez des commentaires, faites-le par texto. 418-971-1021. On parle d'une grève générale illimitée qui est en cours dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence du Québec. Là, j'entends des auditeurs dire « encore des grèves, on est tannés ». On dit que c'est un débrayage qui est effectif depuis minuit une ce matin, qui touche 3300 ambulanciers représentés par la Confédération des syndicats nationaux. On a le plaisir d'en jaser avec Jean Gagnon, qui est le représentant du secteur préhospitalier à la CSN. Monsieur Gagnon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est ce qui se passe.
Ben, écoutez, on s'avère qu'au Québec, ces temps-ci, pour pouvoir négocier, pour avoir des offres à la table de négociation qui ont de l'allure, ça a l'air qu'il faut qu'on parte des grèves. On n'est pas capable de négocier sans que les grèves partent.
Oui. Là, ça fait combien de temps que vous êtes sans convention collective?
On est rendu à plus de 2 ans, là. 2 ans et un tiers, je vous dirais.
Puis qu'est-ce qui achoppe?
Écoutez, ce qui achoppe, on nous propose un recul salarial. Dernière négociation de convention collective, on s'entend pas sur la rémunération que devraient gagner les paramédics. On nous donne une avance de 5 % de salaire le temps qu'on tente de s'entendre à cette négociation-ci. On ne revient pas à s'entendre. Et le dépôt initial du gouvernement, c'est de nous retirer ce 5 % d'avance-là. Et vous savez qu'on manque de paramédics, les conditions sont comme très difficiles, on embauche, les gens quittent. Alors, comme il manque de paramédics, il nous offre d'augmenter les pénalités actuarielles du régime de retraite de façon à obliger les gens à rester plus longtemps. Puis, il me semble qu'on n'a pas besoin d'expliquer là, que si on fait ça, il y a encore moins de monde qui vont vouloir faire dans la profession.
Les comparatifs, M. Gagnon, vous les faites avec quelle province? Vous les faites avec quel pays? Regardez-vous ce qui se passe aux États-Unis? Regardez-vous ce qui se passe en Ontario, en Alberta? Comment on fait les comparatifs pour évaluer que nos ambulanciers chez nous, au Québec, sont moins payés qu'ailleurs?
Écoutez, je vais essayer de vous expliquer ça de façon comme assez simple. Là, il y a plusieurs années, on négociait un salaire avec un rangement qui n'était pas le rangement du secteur d'un rangement du secteur public, mais qui était l'équivalent. Là, tout d'un coup, là, ça a comme baissé, là, puis pour la même valeur d'un emploi, là, c'est comme si on serait deux classes plus bas. Et puis, dans le fond, l'outil qui est utilisé, ben, est pas non plus l'outil de choix pour s'entendre sur notre salaire. Alors, quand on regarde présentement le salaire, ben, il nous manque un certain nombre de salaire pour faire en sorte d'arriver à ce qui est juste dans notre profession. Vous savez, nous, là, on travaille comme un peu des pompiers, des policiers, et on travaille un peu comme, bon, le secteur de la santé, mais on n'est pas capable de faire reconnaître qu'on a les deux dans notre profession, ce qui fait qu'ils nous gardent toujours dans un salaire qu'ils veulent inférieur. Okay.
Mais le salaire d'un ambulancier qui travaille à temps plein, là, qui commence à temps plein, puis bon, qui commence dans sa première année versus, mettons, après 20 ans, ça peut varier entre combien et combien par année?
Ben, écoutez, un paramédic qui débute va être dans les alentours de 53 000, et puis au top échelon va être dans les alentours de 80 000. Okay. Et avec le travail qu'on fait, c'est pas juste de payer ce salaire-là.
Parce qu'en Ontario, je t'aimerais de faire les comparables, M. Gagnon, en Ontario, là, ça commence à 65 000, puis ça plafonne autour de 80 167 $ par année.
Oui, mais là, il faut regarder le travail qu'on fait, il faut regarder la charge de travail, il faut regarder ce que les gens font. Ouais. Et comme je vous dis, à l'heure actuelle, le 5 % qu'on a eu d'avance n'est pas suffisant. On en demande plus, mais on devrait réussir à s'entendre. Mais là, on ne peut pas s'entendre, ils nous reculent.
J'ai une question pour vous, parce que j'ai l'impression, puis on reçoit souvent des gens du secteur préhospitalier en studio, puis on comprend les conditions dans lesquelles vous vivez, puis on voit de plus en plus que c'est pas populaire comme métier pour les corps de travail, la difficulté de les assurances, la reconnaissance, le manque d'effectifs, le fait que vous êtes pogné des fois dans les hôpitaux à pas faire votre job, mais à attendre justement que du côté de l'urgence, on soit capable de prendre en charge les patients, puis vous vous cordez l'un en arrière de l'autre en attendant les bras croisés, que ça se fasse, puis que ça débouche du côté de l'hôpital en question. C'est beaucoup de santé mentale. Ça a énormément changé. Est-ce que le salaire, c'est une chose, mais vous essayez d'être juste intéressant pour la jeunesse ou pour des gens qui voudraient se tourner vers le secteur préhospitalier en ce moment? Le problème, c'est-tu pas nécessairement le salaire, mais vous passez par le salaire pour avoir une rétention ou pour être intéressant parce que finalement, vous ne l'êtes plus du tout?
Écoutez, quand vous finissez jamais à l'heure, vous savez, la gardienne, il faut la payer. Là. Quand on dépasse les heures de gardiennage, là, le gardien, la gardienne s'occupe de nos enfants, bien, ça nous coûte des frais supplémentaires. Alors, il faut absolument trouver une façon de compenser présentement, pas juste à cause de la surcharge de travail, mais pour les frais supplémentaires que ça nous coûte. Ça nous coûte. Et en plus, vous savez que pour un salaire égal, les gens vont se tourner vers une profession où ils finissent à l'heure, où ils mangent à l'heure, où ils travaillent pas la fin de semaine. Vous comprenez? C'est ça qui fait que oui, le salaire, d'une part, est avantageux d'avoir. Mais on n'est même pas à notre juste valeur. Une fois payé à notre juste valeur, ben on demande aussi à ce qu'ils compensent encore mieux pour les heures supplémentaires, de façon à obliger le gouvernement à former plus de monde, à embaucher plus de monde, à les attirer dans la profession, parce qu'on n'est pas capable de garder nos gens, les gens ensemble. Vous savez, maintenant, ça prend un DEC, et le DEC, c'est faut être performant, donc les gens peuvent facilement retourner à l'université, c'est ce qu'ils font. Ils se tournent vers un bac, vers une maîtrise. Ouais. Ils vont faire d'autres choses.
Jean Gagnon.
C'est pas assez payant puis c'est pas assez intéressant.
Là, on parle d'une grève générale illimitée pour ce qui est nos ambulanciers. Cependant, il y a des services qui vont être maintenus toute la durée du conflit. Qu'est-ce qui va être impacté pendant cette grève illimitée-là? Qu'est-ce que vous allez faire pour justement démontrer votre mécontentement face au gouvernement, mais offrir tout de même un service d'ambulance à la grandeur du Québec?
Bon, la question est comme très pertinente. Vous savez qu'on est tenu à une liste de services essentiels qu'on a négociée la semaine passée. Il y a eu une entente sur une liste de services essentiels. Il y a quelques points sur lesquels on ne s'est pas entendu. C'est le juge qui a tranché et on a accepté sa recommandation qui fait qu'on est en grève. Premièrement, on va avoir une grève de tâches. Donc, la grève de tâches va consister en plusieurs éléments, dont, par exemple, on va arrêter de faire la facturation. Donc, on facturera pas les transports. Quand on va arriver dans les centres hospitaliers, à part les cas qui nécessitent qu'on les déplace sur notre civière, on ne déplacera plus les bénéficiaires à l'intérieur des centres hospitaliers. Tant qu'à nous, ça va être mieux pour la route, parce que présentement, quand on transporte les bénéficiaires dans les centres hospitaliers, l'ambulance n'est pas disponible pour retourner faire des appels sur la route. On n'en prendra plus non plus de stagiaires, ça va être différents moyens comme ça. De l'autre côté, le tribunal, depuis 2018, nous a reconnu un droit à la grève, c'est-à-dire des paramédics sur le trottoir avec une pancarte, mais pour mettre une équipe de paramédics sur le trottoir avec des pancartes, on a obtenu du tribunal de le faire à raison de 4 heures à la fois, et c'est à la condition qu'il y a 2 cadres qui, eux, prennent place, 2 cadres qui sont formés comme paramédics, qui vont prendre la place des paramédics syndiqués, qui vont aller faire 4 heures de route d'appel à bord de l'ambulance.
Les conventions collectives, votre convention collective est échue depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans chaque conflit, on s'aperçoit que les conventions collectives sont finies depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans? Pourquoi vous négociez pas avant que ça soit échu?
On essaie toujours de négocier avant, mais tant que le secteur public est pas terminé, il négocie pas les paramédics. Tant qu'après ça, les CPE sont pas terminés, il négocie pas les paramédics. Et après ça, vient le tour des paramédics. Alors là, ce qui fait que ça fait 2 ans et 3 mois, faut comprendre que les paramédics, sur la route, présentement, ils ont pas eu des augmentations de salaire au clavier, là. Donc, ils perdent l'argent tout le temps, puis ils ont pas encore réussi à négocier leur salaire, leur juste salaire. Puis quand tout ça va arriver, c'est toute de la rétroactivité qui embarque toute sa même année d'imposition. Là. C'est absolument pas avantageux pour nous autres. Mais là, on est rendu à partir de la grève après 2 ans et quart, alors qu'il est présentement à table de négociation. Nous, on a bien expliqué nos demandes, elles sont claires. Eux nous demandent des contreparties, mais on vient pas à bout de savoir c'est quoi qu'ils veulent exactement. Puis pour le peu qu'ils nous précisent, ça tient pas la route.
Mais M. Gagnon, avez-vous des hypothèses? En quoi c'est payant pour le gouvernement d'attendre 2 ans après la fin de la convention collective pour négocier avec vous autres? Il y a certainement une raison pour laquelle c'est si long que ça. 2 ans, M. Gagnon, ça n'a pas de bon sens.
Écoutez, je peux pas vous donner la raison, à part qu'ils nous disent toujours, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Je comprends, là, le gouvernement, mais c'est qu'un employeur. Tu sais, l'employeur, nous autres, on est un employeur de choix parce qu'on a réglé le secteur public, mais s'il veut être un employeur de choix pour nous autres, il faut qu'il nous donne les augmentations de salaire. Tu sais, on est prêt à avoir les mêmes augmentations de salaire que ce que le secteur public a eu, là, mais on veut qu'on règle notre salaire. Alors, s'il règle notre salaire, les augmentations, mais il va être un bon employeur, puis les gens vont être heureux. Regardez, à chaque convention collective, on est toujours sur les mêmes choses. On veut régler notre salaire. On peut-tu le régler une fois pour toutes avec quelque chose qui est raisonnable, mais qui n'est pas le 5% d'avance qu'on a pour l'instant? Ça prend un peu plus.
Là, c'est une grève illimitée pour ce qui est de nos ambulanciers. Bon, ils vont être actifs quand même sur le terrain, donc on va espérer qu'il arrive à rien de grave. Il y a des dates de négociation qui sont planifiées pour ce qui est du mois de juillet. Faites-vous de l'overtime, M. Gagnon?
Écoutez, il y aura rien de grave qui va arriver, mais il va y avoir des bris de service, des manques d'ambulance, mais ça, c'est à l'année, c'est pas à cause de la grève. Puis au niveau de la table de négociation, on a 3 journées cette semaine, 3 la semaine prochaine, 3 l'autre après. On a 9 jours. On espère pouvoir avancer, mais si la table d'en avant n'a pas les mandats, on va tourner en rond. Puis présentement, ben, distance supplémentaire, il y a des régions où non seulement il y a distance supplémentaire, mais il manque de monde, puis ils font affaire avec des agences privées. Parce que les gens, c'est plus payant d'aller travailler pour une agence. Fait qu'on a des gens qui font le choix de diminuer leur disponibilité dans les entreprises où ils travaillent au lieu d'être en conflit, se mettre temps partiel. Et ils vont travailler pour l'entreprise qui traite de la main-d'œuvre.
Y a-t-il des entreprises privées qui fournissent des ambulanciers, M. Gagnon?
Oui, notamment la BETAC, là, qui a une entreprise où ils prêtent du personnel. Et ce qu'ils font, c'est quand tu manques quelqu'un, exemple, sur la Côte-Nord, ou même à Montréal, parce qu'on en manque à Montréal, les conditions sont tellement pas avantageuses à l'urgence de santé, aux joyaux de la couronne, comme en région. Ben, on a des gens qui travaillent surtout dans des coopératives qui, il y en a même qui font pas toutes leurs heures parce que les gens préfèrent se tourner vers une entreprise comme les coopératives. Et ces gens-là, ben, ils vont avoir des prêts de service avec toutes les primes qui vont avec pour aller travailler pour la BETAC. Puis là, à l'heure actuelle, à la table de négociation, non seulement on nous donne pas les conditions pour que le monde reste, mais on nous demande de faire une entente de prêts de service avec les entreprises, comme je dis, exemple, les coops, où il y a du monde qui sont disponibles. On se dit, OK, qu'est-ce que vous donnez comme condition? Non, les gens vont y aller parce que ça leur tente, on donnera rien de plus. Ça donne quoi de négocier ça alors que les gens vont continuer d'aller travailler comme exemple la BETAC parce que ça va être bien plus payant? On tourne en rond présentement en table de négociation, vous n'avez pas idée.
Je vous souhaiterais bien un bel été, M. Gagnon, mais là, vous avez des dates de négociation qui sont planifiées en juillet. Je pense que vous en avez 9, là, de ce que je comprends. Donc, ça se peut que ce soit un été plus achalandé que vous pensiez.
Ça l'est toujours, puis vous savez, c'est pas de guetter le cœur. Les paramédics, c'est beaucoup plus simple de rentrer travailler heureux, et les gens sont allés, parce qu'oubliez pas la charge de travail, là, hein? On sauve des vies, on couvre, hein, vous savez, hein, souvent on ramasse aussi des enfants, des adultes blessés, des drames, puis à travers ça, ben les gens sont préoccupés par leurs conditions de travail, d'arriver à l'heure à garderie. Alors, c'est pas facile pour les paramédics, monsieur, puis c'est pour ça qu'ils se tournent vers d'autres choses après quelques années.
J'en doute pas, M. Gagnon, j'ai des chums qui sont ambulanciers, dont certains avec qui je joue au hockey. Bon, c'est pas les meilleurs joueurs de hockey, mais on me dit que c'est les meilleurs ambulanciers. Mais ils me mentionnent aussi que c'est pas vraiment évident, là, d'attendre pendant des fois 3 heures, 4 heures avec un patient qui a simplement une jambe cassée à l'hôpital en attendant qu'on le prenne en charge, puis d'entendre des calls pour de priorité numéro 1 dans l'ambulance en sachant que tu dois rester avec ton patient. Ça doit être extrêmement frustrant pour eux. Puis ils me le mentionnent assez souvent. Donc, je vous souhaite un bel été, M. Gagnon, puis au plaisir de se reparler dans les prochains jours pour que ce soit réglé.
Je vous remercie beaucoup. C'est une bonne journée. Au revoir.
Salut, bye-bye. Jean Gagnon, qui est représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux pour la CSN. On parle d'une grève générale illimitée qui est en cours dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence du Québec, donc / ambulancier. C'est un débrayage qui est effectif depuis ce matin, minuit 1, en fait. Ça touche 3300 ambulanciers représentés par la CSN. Donc, voilà. Puis on nous mentionne que le service va être offert quand même, sauf qu'au niveau de la papeterie, ça va peut-être être un peu plus lâche qu'avant.
Il y a beaucoup de textos qui sont entrés pendant... Attendez, là, y a-tu des interruptions de service qui vont arriver ou quoi que ce soit? Donc, non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans le pénaliser le patient ou le bénéficiaire.
Lâchez pas. 418-971-1021, 418-971-1021. Après la pause, on jase avec notre ami Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables.
102.1.